Alors ce matin, on continue, on termine en fait la mini-série sur le travail que Pasteur Joël a commencé il y a 2 semaines, donc c'est la 3e semaine ce matin. Puis je vous invite à tourner avec moi dans Colossiens au chapitre 3. Il y a plusieurs années, beaucoup d'années de ça, mon premier pasteur m'avait raconté qu'une fois, un jeune homme était allé le voir. Et il avait dit, Jean, parce que mon premier pasteur s'appelait Jean, il dit, Jean, moi, j'aimerais ça te recommander à l'œuvre. C'est-à-dire que j'aimerais ça devenir pasteur. J'aimerais ça que tu fasses ce qu'il faut pour ça. Merci. Alors, Jean lui a demandé, OK, mais pourquoi tu veux devenir pasteur? Pourquoi tu veux te recommander à l'œuvre? Et le jeune homme lui a répondu, « Bien, parce que j'aime pas ça travailler. » Il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles on peut vouloir faire un travail ou un autre. Hein? Certains sont motivés par l'argent. Certains sont motivés par les conditions de travail. Il y a des travails qui permettent d'avoir beaucoup de temps libre, d'autres qui permettent de voyager. Et bon, il y a toutes sortes de conditions qu'il peut y avoir. Ça peut être par passion. On est passionné dans un domaine ou dans un autre. Ça peut être un travail qu'on veut faire parce que ça représente des défis, puis on peut être quelqu'un qui aime relever des défis. Ou on peut simplement désirer faire un travail parce que c'est pas dur, comme être pasteur, par exemple. Hein? Non, mais c'est vrai, quelqu'un m'a déjà dit, vous êtes bien, vous autres, les pasteurs, vous travaillez 3-4 heures par semaine le dimanche matin. Bon. Mais peu importe le travail qu'on fait et la raison pour laquelle on le fait, j'espère que ce qui nous motive n'est pas la même chose que le jeune homme de l'anecdote que je viens de conter, qui est une histoire vraie. Hein? Parce que peu importe le travail qu'on fait, on le fait sous le regard de Dieu. Et comme Pasteur Joël l'a mentionné dans les deux dernières prédications de cette série sur la théologie du travail, par le travail qu'on fait, nous sommes appelés à glorifier Dieu. Pasteur Joël a mentionné ça et je l'ai noté, parce que c'est vrai. Et pas besoin d'être pasteur pour glorifier Dieu. Là. Tous les travails, sans exception, vu que ce soit un travail honnête, évidemment, et correct devant Dieu, là, tous les travails devraient être faits en fonction de glorifier Dieu. Et cela, quand on sait ça, ça devrait impacter notre attitude dans le travail. Alors, ce matin, on va voir dans le texte de Colossiens 3, dans les versets 22 à 25, que Paul, l'apôtre Paul, nous parle d'obéir dans la crainte du Seigneur, d'agir comme pour le Seigneur et de travailler de façon à servir le Seigneur. Alors, lisons ensemble Colossiens 3, 22 à 25. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Et il n'y a point de favoritisme. Le mot « serviteur » peut aussi être traduit par « esclave ». Et certainement que parmi vous, il y en a que dans leur Bible, c'est écrit « esclave » au début du verset 22. Et c'est correct parce que ça peut être traduit comme ça. Et si Paul s'adresse aux esclaves ici pour leur dire d'être soumis à leur maître, ben c'est pas parce que la Bible approuve l'esclavage. Hein, on peut lire ça et dire « ben voyons ». Pourquoi Paul il dit aux esclaves d'être soumis à leur maître? C'est pas correct l'esclavage. Mais en fait, il faut comprendre que l'esclavage était une réalité sociale au 1er siècle. Et l'intention de Paul ici n'est ni d'approuver ni d'encourager l'esclavage, mais d'exhorter les esclaves chrétiens à honorer Dieu dans la condition où ils étaient. Et Paul a d'ailleurs écrit quelque chose de semblable aux Corinthiens quelques années auparavant. En 1 Corinthiens 7, on peut lire ceci. Seulement, que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. Quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis? Qu'il demeure circoncis. Quelqu'un a-t-il été appelé étant incirconcis? Qu'il ne se fasse pas circoncire. La circoncision n'est rien, et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. As-tu été appelé étant esclave? Ne t'en inquiète pas, mais si tu peux devenir libre, profite-en plutôt. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Vous avez été racheté à un grand prix. Ne devenez pas esclave des hommes. Que chacun, frère, demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Donc, ce que Paul relève en Colossiens 3, ce n'est pas l'esclavage, mais un appel à agir sous le regard de Dieu et dans la crainte de Dieu. Et ça, ça va dans la continuité des versets précédents de Colossiens 3, où Paul nous appelle à être soumis et bienveillants dans la famille. Regardez Colossiens 3 à partir du verset 18. « Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme il convient dans le Seigneur. Marie, que chacun aime sa femme et ne s'aigrisse pas contre elle. Enfin, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. » Et Paul continue au verset 22 avec les esclaves. C'est donc un appel ici à agir là où nous sommes et dans la condition, dans le rôle dans lequel Dieu nous a placés, afin qu'on agisse sous le regard de Dieu et de façon à glorifier Dieu, et même en étant esclave. C'était la réalité au premier siècle. Un commentateur biblique du nom de C.H. McIntosh a dit ceci. L'esclave n'est pas exclu du service de Dieu. En faisant simplement son devoir sous le regard de Dieu, il honore la doctrine chrétienne et rend gloire au Père. Et cela, ça s'applique à nous aussi, dans le travail, dans les relations qu'on a au travail avec nos patrons, avec nos supérieurs. Au verset 22, il est écrit « Obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair », donc on pourrait dire à vos patrons. « Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. » Alors, l'obéissance que Dieu nous demande envers nos patrons, envers nos supérieurs, remarquez ici qu'elle est en toutes choses. Parce que c'est facile de dire « Oui, mais moi je vais obéir parce que ça, j'aime ça. » Parce que ça, je trouve ça correct. Parce que ça, c'est facile. Mais parce que ça, ça ne m'embête pas. Mais devant le Seigneur, dans notre travail, on n'est pas là pour choisir les tâches qu'on va faire. On est là pour accomplir le travail qu'on doit faire et pour lequel on est payé. Alors, il dit « en toutes choses ». Évidemment, il y a des demandes, il y a des choses qui nous plaisent plus, qui nous plaisent moins, mais il faut le faire, sauf si ce qui nous est demandé est quelque chose d'illégal ou de péché, évidemment. À ce moment-là, on n'est pas tenu d'obéir parce que c'est d'abord à Dieu qu'on doit obéir. Il y a plusieurs années de ça, on n'était pas dans la région et Nathalie travaillait pour quelqu'un qui lui avait demandé de mentir pour lui dans une situation précise parce qu'il ne voulait pas être dans le trouble. Bon, Nathalie avait refusé en lui disant qu'elle était chrétienne, mais il savait qu'elle était chrétienne, mais il lui a rappelé, en lui disant que si elle mentait, elle pécherait devant Dieu. Alors, si elle devait répondre à des questions, elle aimerait mieux ne pas être là parce qu'elle ne mentirait pas. Elle dirait la vérité parce qu'elle parlait devant Dieu. Alors, son patron lui avait dit, « OK, ben d'abord, si la circonstance arrive, je vais m'arranger pour que tu ailles pouvoir répondre à des questions. » Vous savez, certainement que beaucoup d'employeurs auraient pu la congédier parce qu'elle a refusé potentiellement de mentir pour lui parce qu'elle ne voulait pas déplaire à Dieu. Ce n'est pas une notion qui est populaire aujourd'hui. Hein. Alors, elle aurait pu perdre son emploi, mais ce n'est pas ça qui est arrivé. Au contraire, Son patron avait vu son intégrité et il s'était dit, une intégrité comme ça, ça peut être bon pour moi, pour la compagnie, alors je vais la garder. Par notre fiabilité au travail, par notre intégrité aussi, doit être la même, et ce, que notre patron soit présent ou non. Vous savez, c'est facile de dire, ah ben, je suis le boss, il est là, je vais me démener comme fou, je vais faire ce que j'ai à faire, mais quand le boss n'est pas là, ben, je vais m'en permettre un petit peu. Hein, Oublions pas que c'est sous le regard de Dieu que nous travaillons. Donc, comme le dit le verset 22, nous ne devons pas agir seulement comme sous leurs yeux, c'est-à-dire comme s'ils étaient là pour nous surveiller, mais avec simplicité de cœur, ou comme dit le verset 23, de bon cœur et dans la crainte du Seigneur. La mention « dans la crainte du Seigneur » change tout ici. Quand je suis conscient que je travaille sous le regard de Dieu, eh bien, ça doit m'amener la crainte de Dieu. Donc, Seigneur, si je fais ceci ou si je ne fais pas cela, est-ce que je te déshonore? Oui, mais Seigneur, j'aime pas ça, moi, cette affaire-là. Le Seigneur pourrait dire, oui, mais tu es payé pour, fallait. Puis fallait comme faut. Une fois, j'avais travaillé pour quelqu'un qui faisait de la rénovation. C'était ma première journée, puis le boss était venu me conduire sur le chantier, puis là, il m'a expliqué ce que je devais faire. On n'était pas seul, on était 5 ou 6 employés. Moi, j'étais le petit nouveau. Après un certain temps, le boss est parti, parce qu'il y avait des affaires à faire, des affaires de boss. Donc, ça part, un boss, des fois. C'est correct. Hein? Mais aussitôt qu'il a viré le coin de la rue, on a entendu les outils tomber à terre. Poum, 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 poum. Il y a un des employés qui est allé dehors pour parler sur son téléphone cellulaire. Il y en a un autre qui est allé fumer. Il y en a un autre qui est allé aux toilettes. Puis il y en a un autre qui s'est accoté sur le mur puis ne faisait rien. Ça a été comme ça pendant environ 45 minutes, jusqu'à ce que le boss revienne. Vous savez, j'aurais pu tenter de faire la même chose aussi. Après tout, aucun de ces gars-là m'aurait stoulé. Mais j'ai continué à travailler puis à le faire de mon mieux, même si j'étais le seul à travailler. Parce que je n'ai pas besoin d'être surveillé pour faire ce que j'ai à faire. Oublions pas que si le boss ne nous voit pas, Dieu nous voit, lui. Et c'est devant Dieu qu'on travaille. C'est sous le regard de Dieu qu'on travaille. Et on doit être intègre. Même si on est laissé tout seul dans un endroit, notre patron, notre boss nous fait confiance. Il s'attend à ce qu'on lui rende le travail pour lequel on est payé à faire, puis qu'on le fasse comme il faut. Surtout s'il sait qu'on est chrétien, on a un témoignage. Alors, c'est important de ne pas oublier qu'on travaille sous le regard de Dieu. Vous savez, un chrétien qui est un bon employé, obéissant et intègre, puis qui travaille dans la crainte de Dieu, c'est un bon témoignage pour le Seigneur. Et ça, ça glorifie Dieu. Oui, mais comment ça peut glorifier Dieu? Dieu va s'arranger avec ça. Dieu ne nous demande pas de comprendre toujours comment il peut se glorifier à travers notre travail. Il nous demande de bien faire notre travail. Puis lui va s'arranger avec le reste, puis il se glorifiera bien de la façon dont il voudra le faire. C'est d'ailleurs ce que Paul fait remarquer un peu à Timothée, en 1 Timothée 1,6. Il dit, « Les croyants qui sont esclaves ou employés, dans notre cas, doivent considérer leur maître ou leur patron comme ayant droit à tout leur respect. Ils éviteront ainsi que le nom de Dieu soit blasphémé et notre enseignement dénigré. » Et à l'inverse de ça, vous savez, bien, un chrétien qui agit mal au travail va se faire remarquer bien plus que les autres. Vous savez, les gens qui savent qu'on est chrétien au travail, là, je dis ça parce que ça m'est arrivé dans le passé. Alors que je travaillais dans une usine, j'avais fait quelque chose de pas correct, puis les gars se sont, de façon moqueuse, ont trouvé un malin plaisir à relever le fait que j'étais chrétien. « Hey, regarde, t'es pas chrétien, toi? Hey! Comment ça que t'agis de même? Comment ça que tu parles de même? T'es chrétien, toi? » Si j'avais pas été chrétien, ça aurait passé sous le radar. Mais les gens le savent. Ils vont le relever. Je pense que ça devrait nous interpeller à dire « C'est vrai, j'ai un témoignage à rendre devant le Seigneur. » Ah, puis des fois, là, c'est tentant, là, vous savez, de se laisser aller ou d'embarquer dans des discussions qui se passent ou dans le chiolage ou dans les, bon, toutes sortes d'affaires, mais n'oublions pas que c'est sous le regard de Dieu qu'on travaille. Et l'idée, ce n'est pas de se mettre un fardeau puis un poids ici, là, c'est pas ça. C'est d'être conscient qu'on travaille sous le regard de Dieu et qu'on a un témoignage à rendre pour le Seigneur. Peu importe le travail qu'on fait. Si on a un mauvais témoignage, d'une façon ou d'une autre, ça va salir le nom de Jésus. Et quand on va vouloir parler du Seigneur, bien, on n'aura pas grande crédibilité. Le verset de Timothée 1,6 dit, hein, « Ils éviteront ainsi que le nom de Dieu soit blasphémé et notre enseignement dénigré. » Imaginez que j'agisse mal au travail, que je parle mal, que je ne rende pas à mon patron ce que je devrais lui rendre comme travail. Quand je vais vouloir témoigner, ça n'aura pas grand force, ça n'aura pas grand puissance. Évitons, frères et sœurs, que le nom de Dieu soit blasphémé et que notre enseignement soit dénigré. C'est sous le regard de Dieu qu'on travaille. Alors, soyons obéissants et intègres dans la crainte du Seigneur. Lisons le verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Je viens de vous parler d'un contexte, du contexte dans lequel ça a été écrit, ça, dans le contexte de l'esclavage au 1er siècle. Et là, je m'imagine être un esclave, puis que je lis ça, là. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Moi, a priori, je pourrais trouver ces paroles-là un peu dures. Oublions pas que Paul s'adresse à des esclaves. Alors, il leur dit, « Tout ce que vous faites, faites-le comme pour de bon cœur. » Alors, on pourrait se demander, est-ce que Paul, ici, était pro-esclavagiste? Ou encore, est-ce qu'il était déconnecté de la réalité pour dire une chose comme ça? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Paul n'est pas esclavagiste, puis il n'est pas déconnecté de la vérité. Mais comme je l'ai mentionné tantôt, l'intention de Paul ici n'est pas d'approuver l'esclavage ou de l'encourager, mais d'exhorter les esclaves chrétiens à honorer Dieu, même dans leurs conditions, et d'agir en toute chose, comme il est écrit, comme pour le Seigneur, sous le regard de Dieu. Je ne sais pas à quoi pouvait ressembler l'esclavage au 1er siècle. On a peut-être un petit peu de mention là, dans l'Épître à Philémon avec Onésime. Bon, quelques rares, peut-être, petites fenêtres qui pourraient nous en dire un petit peu. Dans l'Ancien Testament, il y en a question aussi, mais bon. Je ne m'embarquerai pas là-dedans parce que je ne sais pas vraiment qu'est-ce que ça pouvait être l'esclavage au 1er siècle, ni même ailleurs dans l'histoire. C'est quelque chose que je n'ai pas vécu, connu, merci Seigneur. Mais la notion que j'ai de l'esclavage est celle de l'histoire récente. Au 18e, 19e siècle, particulièrement aux États-Unis, hein, où des gens étaient forcés de travailler dans les champs de coton et où ils étaient traités avec cruauté et méchanceté. Et à cause de ça, a priori, je trouve ça dur, les paroles adressées au verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Comment est-ce que je peux arriver de faire ça de bon cœur si je suis maltraité? Si je suis traité injustement et que je n'ai aucun droit. J'essaie de m'imaginer être un esclave, contraint de travailler, être fouetté, être malmené, être battu. Puis en plus, pour la première génération de ces esclaves-là, dans le sentiment d'avoir été enlevés parce qu'ils étaient enlevés de force de leur pays, hein? Enlevés à leur famille, à leur tribu, à leur pays, emmenés sur des bateaux pour être emmenés en Europe ou aux États-Unis où ils étaient vendus comme des animaux, comme de la marchandise. Il y a quelque chose de révoltant là-dedans. Puis là, je me semble que je lis ça, puis tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Imagine, j'essaie de m'imaginer, puis là, je me dis, comment j'y arriverai? Je pense que j'aurais besoin de la grâce de Dieu pour y arriver. Définitivement. Est-ce que vous connaissez la musique gospel? J'imagine que oui, vous avez déjà entendu parler de la musique gospel. Mais est-ce que vous connaissez l'origine de la musique gospel? J'ai fait des petites recherches cette semaine et j'ai pu trouver que la musique gospel trouve ses racines aux États-Unis dans les communautés d'esclaves afro-américains de la fin du 19e siècle. Le gospel était une musique avec un rythme africain, des mélodies américaines et des textes bibliques. Et le gospel, ce n'est pas juste de la musique, c'est un cri du cœur. Pour beaucoup de ces chants-là, ce sont des prières rythmées par lesquelles les esclaves ont su exprimer leur souffrance et leur espoir de liberté, mais aussi la foi, l'espérance que beaucoup d'entre eux avaient en Jésus-Christ malgré leurs horribles conditions. Le gospel est donc une musique de foi, de résilience et d'émotion, qui est née dans la douleur de l'esclavage, mais qui est devenue un symbole de force, de résilience, d'espoir et de liberté pour des millions de personnes qui ont accepté d'agir comme pour le Seigneur et non pour des hommes, malgré des conditions souvent inhumaines. Moi, je crois que Dieu leur a donné une grâce spéciale et qu'ils vont avoir la récompense qui vient avec. Parce que pour être capable de subir ça, ça prend une grâce. Et Dieu s'est glorifié à travers eux, à travers leurs conditions. Dieu s'est glorifié par leur soumission, forcée, mais quand même, ils étaient soumis. Et aussi par les chants gospel qui ont été un témoignage de leur résistance et de leur joie d'appartenir à Jésus-Christ. Je ne sais pas, mais les gens qui ont vécu à l'époque de l'esclavage et qui ont vu tous ces esclaves être maltraités, mais qui chantaient des chants de liberté, d'espoir, de foi, ça a dû être tout un témoignage. Comment ces gens-là peuvent glorifier Dieu alors qu'ils sont dans des conditions infâmes comme ça? Comment ces gens-là peuvent aimer un Dieu qui permet qu'ils sont dans des conditions comme ça? Il me semble que moi, je me serais posé ces questions-là. Et le témoignage m'aurait frappé en plein visage. J'imagine que ça a été le cas pour beaucoup de personnes. Dieu sait se glorifier à travers toutes les conditions, même les pires conditions. Ces gens-là faisaient ce qu'ils le faisaient, non pour des hommes, mais de bon cœur, comme pour le Seigneur, sachant, nous dit le verset 24, qu'un jour, ils recevraient du Seigneur l'héritage pour récompense. Donc, pour revenir à ce que je disais concernant les paroles du verset 23, quand Paul écrit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur », en réalité, ce ne sont pas des paroles dures et insensibles, mais un appel à trouver sa joie dans le Seigneur, peu importe la condition dans laquelle on se trouve, et un appel à agir de façon à plaire au Seigneur malgré tout, parce que c'est sous le regard de Dieu qu'on travaille. Et si beaucoup de personnes ont réussi à faire ça dans des conditions d'esclavage, je pense qu'on peut arriver à le faire nous autres aussi, les Nord-Américains qui vivons en 2025. Dans les conditions de nos travails qui ne nous plaisent pas trop. On n'est pas en toutes dans les mêmes circonstances. Et quand on se compare, on se console, ben je pense qu'on a un bel exemple ici. Peut-être que je ne suis pas content des conditions de mon travail. Mais quand je pense à ces gens-là, ces hommes et ces femmes-là, et ces enfants qui ont eu la résilience, la conscience qu'ils travaillaient sous le regard de Dieu puis qu'ils ont eu une certaine soumission et tout ce qui vient avec, ben je pense que je me dis que moi, à mon travail, s'il y a de quoi que je ne suis pas content, là, je peux vivre avec facilement parce que ça n'a rien à voir avec ce qu'eux ont vécu puis eux, ils ont réussi. Vous savez, on peut chialer parce que notre salaire n'est pas assez bon ou parce qu'on voudrait de meilleures conditions de travail. Ou parce que notre patron est un vrai tyran. Je suis pas en train de dire que Joël, c'est un tyran. Là. Non, c'est pas ça. J'ai pas dit ça. Ou pour mille autres raisons. Et peut-être même qu'on a raison de penser ça. Mais si on n'a pas de contrôle sur les circonstances, on peut avoir un contrôle sur notre attitude. Et le Seigneur nous demande d'avoir une attitude qui va faire en sorte que Dieu va être glorifié par notre obéissance, par notre témoignage, par notre façon d'agir, et que ce soit au travail ou ailleurs. Ça nous est tous arrivé de mal agir, de mal parler, ou d'avoir une mauvaise attitude. En tout cas, si ça ne vous est pas arrivé à vous, moi, ça m'est arrivé. Je me souviens de certaines occasions, alors que je travaillais dans une usine, où, que, comme je disais tantôt, j'ai parfois dit des choses, fait des choses ou une mauvaise attitude qui a déshonoré le Seigneur. Puis les gars savaient que j'étais chrétien, alors parfois ils l'ont relevé, mais parfois non. Puis à bien y penser, je pense que les fois où ma mauvaise attitude au travail n'a pas été relevée, je pense que ça m'a fait plus mal que quand elle a été relevée. C'est comme si le Seigneur s'adressait à moi et me disait, je vais leur clore la bouche, là. Tu vas juste filer que moi, je l'ai vu ce que tu as fait. Moi, je l'ai entendu ce que tu as dit. Moi, je la vois, ta mauvaise attitude. Je pense que ça m'a fait mal. Un peu comme quand Pierre, après avoir renié le Seigneur, il a croisé le regard de Jésus qui passait. Ça l'a brisé. Mais Dieu l'a relevé. Vous savez, on peut s'en vouloir dans ce temps-là, puis je pense que c'est correct dans une certaine mesure, là. Mais ce qu'il faut, c'est pas de porter un poids de culpabilité qui va nous écraser, qui va nous empêcher d'avancer, puis qui va nous tenir esclaves d'une culpabilité. Ce qu'il faut faire, c'est ce que la parole de Dieu nous invite à faire, c'est-à-dire à confesser notre péché au Seigneur, à accepter son pardon et à corriger notre attitude. On va lire un extrait du psaume 51, où après avoir commis un grand péché, David s'exprime ainsi. « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions. Et mon péché est constamment devant moi. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Rends-moi la joie de mon salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » Ces paroles-là ne sont pas condamnatrices. Au contraire, elles sont remplies d'espoir, frères et sœurs. Alors, quand on agit mal, que ce soit au travail ou dans n'importe quelle circonstance, on peut facilement s'accabler. Puis l'accablement est correct parce que si ça nous amène à une tristesse selon Dieu, qui, elle, va nous conduire à la repentance, eh bien, parfait, c'est ça qu'il faut. Mais de rester dans un fardeau de culpabilité, ça n'honore pas Dieu. Parce que le message qu'on pourrait lancer en refusant de se pardonner et en refusant de croire au pardon de Dieu, c'est qu'on dit, « Seigneur, mon péché il est plus grand que ta grâce. » Ma faute ne mérite pas d'être pardonnée. Bien, sur ça, c'est vrai. Nos fautes ne méritent pas d'être pardonnées devant Dieu. Mais dans sa grâce, Dieu choisit de nous pardonner. Et si on refuse son pardon, bien, en quelque part, c'est une offense. C'est un blasphème à Dieu. Mais Seigneur, ta grâce n'est pas suffisante. C'est un peu le message qu'on lance. Et ça s'applique dans toutes les circonstances. Et même au salut. Je vais revenir là-dessus tantôt. Mais, vous savez, quand on agit mal, je reviens au travail, quand on agit mal au travail, ça se peut que notre témoignage ait été scrap, a été bafouée. Ça se peut qu'on regrette, vraiment, mais on ne peut pas revenir en arrière. Souvent, là, si j'avais eu une machine à voyager dans le temps, j'avais pu revenir en arrière, je l'aurais faite. Mais on ne peut pas. On ne peut pas. Il faut avancer. Alors, faisons confiance à Dieu, confessons notre péché, soyons tristes d'une tristesse selon Dieu qui va nous conduire à la confession et à la repentance. Et laissons la grâce de Dieu nous couvrir et nous relever, frères et sœurs. Ça honore Dieu. Puis, vous savez, même si quelqu'un vient nous voir et dit, « Oui, mais là, toi, le chrétien, là, hier, avant-hier, la semaine passée, là, t'as fait ça. » Oui, c'est vrai. Puis, je le regrette. Je demande pardon parce que j'ai été un mauvais témoignage. Mais tu sais quoi? Dieu m'a pardonné. Voyons donc! Pas obligé de le croire, mais moi, je suis en paix. Parce que mon Dieu ne se lasse pas de pardonner. Puis la joie là, qu'on va ressentir, ça peut être un grand témoignage. La repentance et la confession mènent à la restauration. Alors, même si on pense que notre témoignage est scrap, Dieu peut rattraper tout ça. La semaine passée ou l'autre semaine avant, pasteur Joël a mentionné que peut-être qu'on aurait quelque chose à confesser au Seigneur. Quelque chose qu'on a fait, qu'on a dit, une façon qu'on a agi au travail, ce serait le temps de le confesser, puis j'aimerais réitérer ça ce matin, parce que je trouve ça pertinent dans la suite de la série. Est-ce que, mon frère, ma sœur, il y a quelque chose que tu te rends compte maintenant que tu as fait, que tu as dit, une façon d'agir au travail qui n'honorait pas Dieu? Je t'invite à le confesser maintenant. Dans ton cœur, va au trône de la grâce. Libère-toi de ça. Libère-toi de ça. Parce que Dieu ne se lasse pas de pardonner. Libère-toi de ça, puis accepte sa grâce, son pardon, puis continue d'avancer. Puis demande à Dieu de rattraper ton témoignage. Il va le faire, il est capable, il y a juste lui qui est capable de faire ça. Reste pas avec ça, mon frère, ma soeur, si ça t'accorde, parce que ça m'est déjà arrivé. J'étais resté pendant un certain temps avec un fardeau. Puis j'avais honte, en quelque part. Des fois, là, j'arrivais au travail, puis je me souvenais de ça. Peut-être les gars de la shop ne s'en souvenaient même plus, eux autres. Là. Probablement qu'ils ne s'en souvenaient même plus, même. Mais moi, je m'en souvenais. Et ça affectait mon attitude. La confession, la repentance et d'accepter le pardon de Dieu, ça change tout. Si tu as quelque chose, mon frère, ma soeur, à confesser, fais-le maintenant. Reste pas avec ça. Tu n'es pas obligé de rester avec ça. Pas du tout. Confesse-le à Jésus, relève-toi, puis repars. C'est ça qu'il faut. C'est ça qui va honorer le Seigneur. Versets 23 à 25. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Et il n'y a point de favoritisme. Paul ici donne la raison ultime et donc la meilleure des motivations pour qu'on soit obéissant envers nos patrons et pour qu'on agisse au travail comme pour le Seigneur. Cette raison-là, c'est que le chrétien né de nouveau est racheté par le sang précieux de Christ, doit porter ses regards sur la finalité de toute chose et sur la récompense céleste qui l'attend, beaucoup plus que sur les désagréments de cette vie et de notre travail. Paul écrit en 2 Corinthiens 4, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Dans la vie, on peut se plaindre de notre travail. On peut se plaindre de notre santé. On peut se plaindre de notre mariage. On peut se plaindre de toutes nos misères. Mais sans amoindrir la réalité de nos difficultés et de nos épreuves, n'oublions pas une chose. C'est que si nous sommes en Jésus-Christ, le plus gros de nos problèmes est réglé. Et c'est à ça qu'on doit regarder, frères et sœurs. En Jésus-Christ, le plus gros de nos problèmes est réglé. Parce que tout ce qui peut nous arriver durant cette vie, c'est rien comparé à l'éternité. On va vivre quoi? 70, 75, certains 95, d'autres centaines, mais maximum, quoi, un siècle d'existence, comparativement à l'éternité, c'est rien. Alors, la parole de Dieu nous encourage à bien des endroits à ne pas fixer sur nos problèmes, à ne pas laisser nos problèmes nous enterrer, à ne pas laisser nos problèmes nous rendre coupables sans cesse, mais à se libérer de ça, à remettre ça au pied de la croix, puis à regarder à Jésus. Parce que toutes nos légères afflictions du moment produisent en nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles et qui sont éternelles. Quand nous on le salue en Jésus-Christ, le plus gros de nos problèmes est réglé. Amen. Vous d'accord avec ça? Et en plus, tout ce qu'on va endurer pour le Seigneur et la fidélité, l'obéissance qu'on va avoir manifestée pour lui durant cette vie, bien, tout ça va un jour être récompensé au centuple dans sa gloire, dans la gloire éternelle du Fils de Dieu à laquelle nous allons participer parce que nous avons été rachetés par le sang précieux de Christ. Frères et sœurs, nous sommes des fils et des filles du roi des rois, pas par nos mérites, mais par la grâce toute puissante et suffisante de Dieu. Alors, frères et sœurs, en Jésus-Christ, servons Christ le Seigneur par notre vie tout entière, parce qu'il en est digne. En Romains 12:1, Paul écrit, « Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Et ça, ça inclut le travail. Et la façon qu'il nous demande de le servir, dans le texte de ce matin, bien, c'est par le travail. Jésus nous demande de le servir, lui, en étant obéissant envers nos patrons, dans la crainte du Seigneur, en faisant faire ce qu'on a à faire de façon intègre, de bon cœur, comme pour le Seigneur. Alors, on devrait voir le travail comme une responsabilité devant lui et comme une façon de l'honorer et de le glorifier. On a souvent l'image que le travail sert à payer les factures, sert à ce qu'on s'accomplisse personnellement. Bon, il y a de tout ça, puis c'est vrai. Mais n'oublions pas que le travail sert aussi à glorifier Dieu. Et c'est pour ça qu'il en est question dans la parole. Comment je peux glorifier Dieu à travers mon travail? Ce que Dieu nous demande de faire, c'est de le servir. Par notre obéissance, par notre attitude et en recherchant sa gloire. Ensuite, le verset 25 nous dit, « Que celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a point de favoritisme. » Donc, en sachant que nous travaillons sous le regard de Dieu et que le Seigneur nous appelle à l'honorer par notre travail, bien, agissons de façon à le servir lui, parce que, comme dit Galates 6:7, « Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » J'aimerais préciser quelque chose maintenant et m'adresser à ceux qui sont ici et qui ne sont pas nés de nouveau. Ceux qui n'ont pas reçu la grâce de Dieu. Ceux dont Jésus n'est pas le sauveur personnel. Le texte nous parle de plaire au Seigneur, d'agir dans la crainte du Seigneur et de servir le Seigneur. On a vu ça dans le cadre du travail ce matin, mais avant même d'appliquer ça au travail, on doit l'appliquer à notre propre vie. Ce que je veux dire, c'est que si vous pensez plaire à Dieu en ayant une bonne vie, ou si vous pensez avoir la crainte de Dieu parce que vous êtes religieux, ou si vous pensez servir le Seigneur parce que vous faites des bonnes œuvres, détrompez-vous. Parce que pour plaire à Dieu et véritablement le servir, il faut être en Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit, dans l'Épître aux Éphésiens, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » Ça, c'est notre condition à tous au départ. « Dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. » Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. J'aimerais relire ce verset-là. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Il n'y a rien qu'on puisse faire naturellement par nous-mêmes pour avoir une véritable crainte de Dieu, pour servir le Seigneur et pour agir de façon à lui plaire. Oui, si je fais des bonnes actions, ça plaît à Dieu, mais ça ne nous gagnera pas le ciel, ça. Parce qu'on ne réussira jamais à en faire assez pour gagner notre ciel. Le ciel ne se gagne pas. C'est un cadeau. C'est une grâce. Dieu nous la donne. Il l'offre, en tout cas. Et c'est en Jésus-Christ qu'on peut l'avoir. Alors, c'est en Jésus-Christ qu'on peut l'avoir. Est-ce que toi qui m'entends ce matin, tu as fait un jour ce pas de foi, de confiance envers Dieu, d'avoir suffisamment confiance en Dieu et en sa parole pour dire, « OK, ce n'est pas ma bonne vie qui va me conduire au ciel. » C'est même pas parce que je me comporte bien au travail que je vais aller au ciel. Puis c'est pas parce que je suis quelqu'un de bien en vie que je vais aller au ciel. La façon d'aller au ciel, c'est simplement en passant par Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord, mais c'est pas avec moi que vous n'êtes pas d'accord, c'est avec Dieu. Parce que Dieu dit que le chemin du salut, c'est Jésus. Jésus a dit lui-même, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Notre salut est assuré en Jésus-Christ. Et quand on a le salut, le plus gros problème, le plus gros de nos problèmes est réglé. Alors, j'aimerais te poser la question ce matin. Est-ce que le plus gros de tes problèmes est réglé? La question de ton salut. Parce qu'à la base, on est tous perdus. Et nous sommes par nature des enfants de colère, c'est-à-dire séparés de Dieu. Et le seul moyen de corriger ça, ce n'est pas par une bonne vie, par une religion ou par des bonnes œuvres. Mais en Jésus-Christ, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres. Toi qui m'entends, qui n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ ce matin, fais-tu suffisamment confiance à Dieu? Crois-tu la parole de Dieu au point que tu vas lui donner ta vie, que tu vas cesser de vouloir agir par toi-même, pour être une bonne personne aux yeux de Dieu et t'imaginer que tu as la crainte de Dieu sans Jésus-Christ? Viens à Jésus. Il t'appelle à lui en toute simplicité. Simplement. Confesse à Jésus que, à la base, tu es séparé de lui parce que c'est ça qu'il dit dans sa parole. Puis si tu ne le crois pas, ben, tu ne peux pas être en lui parce que tu le fais menteur. Jésus dit qu'on est séparé de lui à la base. Pourquoi? À cause de nos péchés. Pourquoi? Parce que le péché offense Dieu. Et par nos péchés, on offense Dieu sans cesse. Alors, on ne peut pas aller au ciel. Oui, mais juste un petit péché mignon. Non, il n'y a pas de péché mignon. Ce que Jésus a subi à la croix pour le péché, qu'il soit grand ou petit, n'avait rien de mignon. Le péché offense la sainteté de Dieu. Et le péché nous sépare de Dieu. Il l'a dit dans Ésaïe, au chapitre 59 et au verset 1. Ce sont vos péchés qui vous cachent ma face, qui m'empêchent de vous écouter. C'était dans un autre contexte, mais le principe est là quand même. Le péché nous sépare de Dieu. Et le seul moyen de régler ça, c'est de croire que Jésus, à la croix, a porté sur lui nos péchés et qu'il a subi de la part de Dieu la condamnation que nos péchés méritent. Jésus, il n'en avait pas de péché. Parce que s'il y avait eu des péchés, s'il y avait eu le moindre petit péché, il aurait fallu qu'il meure pour les siens. Il n'aurait pas pu mourir pour les nôtres. Mais Jésus a fait une vie parfaite. Et cette vie parfaite a fait en sorte que il a pu porter nos péchés à la croix. Et sa grâce est suffisante pour les péchés du monde entier. Suffisante pour les péchés du monde entier, mais valide seulement que pour ceux qui croient. C'est comme si je vous donne un gros chèque d'un million de dollars, mais que vous allez jamais l'encaisser. Vous n'aurez pas l'argent dans votre compte. La grâce de Dieu, c'est comme ça. Il l'offre à tout le monde, mais il faut la recevoir. Si ton cœur brûle en dedans, si tu aimerais être assuré du salut en Jésus-Christ et d'avoir la vie éternelle, dis-le à Jésus. Confesse-lui que tu es un pécheur, que tu sais que tes péchés te séparent de lui et que tu crois que lui seul est la solution. Et donne-toi à lui. Demande-lui de te sauver. Laisse-le te sauver. C'est lui qui le fait, pas toi. Laisse-le te sauver. En terminant, j'aimerais vous suggérer que si vous cherchez un emploi, mais que vous n'aimez pas ça travailler, être pasteur, c'est peut-être pas une bonne idée. Ben, en tout cas, ça dépend peut-être des pasteurs, mais... Une chose qui est sûre, c'est que pour servir Dieu, on n'est pas obligé d'être pasteur. On peut le faire dans n'importe quel travail, en étant conscient qu'on travaille sous le regard de Dieu. Et avec une attitude qui va honorer Dieu, en obéissant avec la crainte du Seigneur, en agissant comme pour le Seigneur. Et c'est comme ça, dans une attitude de service, qu'on va honorer le Seigneur. C'est comme ça qu'on va servir véritablement au travail. Je ne connais pas la condition de chacun au travail. Vous connaissez votre propre condition, je connais la mienne. Il n'y a rien de parfait en ce bon monde. Même pasteur à l'Église baptiste de Trois-Rivières, je pensais que c'était parfait, mais non, il y a des petites lacunes. Mais c'est à cause de moi, ce n'est pas à cause des autres. Non, je blague. C'est parfait être pasteur ici. Mais peut-être qu'à votre travail, ce n'est pas parfait. Quoi qu'il en soit, n'oublions pas qu'on travaille sous le regard de Dieu. Et que c'est même une grâce que Dieu nous offre. Nous donne de nous obtenir un travail. Alors, glorifions-le pour ça et n'oublions pas que Jésus, c'est le meilleur modèle. La Bible ne parle pas vraiment de son travail. On sait qu'il était fils du charpentier, donc probablement qu'il a travaillé un peu en charpenterie, menuiserie. Alors, il y a des gens ici qui sont privilégiés de faire le même travail que Jésus. Mais je suis convaincu que Jésus a fait un travail de façon absolument parfaite. Et de toute façon, la plus grande œuvre qu'il a faite, qu'il a accomplie, c'est celle du salut. Et c'est pour nous qu'il l'a faite. Gardons les regards sur lui, frères et sœurs, quoi qu'il arrive. Puis, quand on n'aura pas la force d'avancer, puisons en lui la force qu'on a besoin. Parce que Jésus, c'est la source de l'espoir. Puis, quand on aura fait des manquements, écrasons-nous pas. Mais allons à Jésus, encore une fois. Confessons nos péchés. Repentons-nous. Puis laissons-le nous relever. Le travail, ça fait partie de la vie, puis je crois que c'est un outil de sanctification dans les mains de Dieu, pour chacun de nous aussi. Alors, laissons-le agir à travers ça. Prions. Seigneur Jésus, Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole qui aborde beaucoup de sujets, même le travail. Ta parole qui nous enseigne, Seigneur, puis qui parfois met des choses devant nous comme un miroir, puis qu'on voit des choses qui ne nous plaisent pas, ou des fois des choses qui nous plaisent. Quoi qu'il en soit, Seigneur Jésus, ce que tu avais pour nous ce matin, puis à travers les autres messages de cette série, inscris-le dans notre conscience, dans nos cœurs. Permets pas qu'on soit des auditeurs oublieux. Et surtout, rappelle-nous qu'au travail, c'est sous le regard de Dieu qu'on doit agir en toutes choses. Oh Seigneur, bénis ta parole dans nos cœurs et que ton nom soit élevé et glorifié en toutes choses. Amen.